Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5, sur Die ou le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Étienne Laute. Bonjour.
Bonjour.
Étienne Laute, vous êtes ici pour nous présenter un stage d'initiation, d'improvisation musicale qui s'intitule « La joie de jouer ensemble ». Ça se passera le 30, 31 et 1er août à Shangri-La. C'est à l'ancien moulin de Rodé. C'est non loin de Beaumont-Diwa. Vous expliquerez un petit peu le contexte et le paysage à ce moment-là. Donc, ça sera un stage d'improvisation musicale et plus selon les participants. Donc, une improvisation musicale autour de quel registre ?
Eh ben, c'est le but, c'est de permettre à des gens qui jouent déjà, qui jouent d'un instrument, mais qui n'ont pas forcément appris particulièrement un système musical particulier et qui a envie de jouer avec les autres. Et donc, c'est d'apprendre à créer un cadre dans lequel on peut improviser, puisque dans mon expérience, qui est assez variée, ce que j'ai le plus approfondi, c'est la musique classique indienne, où là, c'est de la musique modale, où le cadre de l'improvisation, c'est ce qu'on appelle un raga, c'est grossièrement, on pourrait le définir comme un mode, c'est-à-dire un ensemble de notes, mais c'est plus fin que ça parce qu'il y a aussi des mouvements particuliers. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant, mais c'est ce qu'on appelle l'improvisation modale, c'est-à-dire on improvise sur un chemin de notes, comme si on peignait un tableau avec un certain nombre de couleurs qui sont données, et ça va donner une unité au tableau en question. Et donc ça, c'est une des directions possibles. Et en général, ça s'accompagne d'un bourdon ou un son continu, un petit peu comme dans, par exemple, la cornemuse pour les instruments qui sont, qu'on trouve en France. Ou dans la musique indienne, c'est la tempura qui joue en permanence une note de référence. Et donc, on entend toutes les notes dans leur relation avec cette référence donnée. Et j'ai aussi pas mal... explorer la polyrythmie de l'Afrique de l'Ouest, la musique mandingue, avec Doum Doum, Djembe, où là, c'est donc la richesse et le langage, c'est... Enfin, il y a quand même aussi des accompagnements. C'est le Doum Doum qui joue un peu le rôle d'une basse, mais il n'y a pas vraiment de notes. Mais forcément, les sons du tambour ont une note quand même. Mais il y a une base rythmique circulaire et là-dessus, il y a plusieurs... Les autres tambours... oui, il fait chaud, hein. Il n'y a pas de ventilateur, ça ne serait pas du luxe. Et donc, les autres tambours décorent et ornementent ce cadre rythmique. Et en général, il y a un djembé solo qui va improviser des phrases ou qui va emporter, c'est le soliste sur cette base-là. Et puis, en général, c'est aussi avec des danseurs ou des danseuses. Donc, il y a toute une correspondance entre les différents éléments expressifs. Mais voilà, là, la trame, c'est rythmique et polyrythmique. Et puis, il y a finalement ce qui est peut-être le plus familier à nos oreilles occidentales, c'est... l'harmonie, comme on la trouve dans la musique classique. Tout ça, c'est des termes très vagues et très généraux dans lesquels on peut trouver une infinité de nuances et de variétés. Mais, ou alors, pour ce qui est de la musique improvisée, puisque le but du stage, c'est l'improvisation, dans le jazz, c'est-à-dire qu'on a une grille d'accords et on va improviser. Donc, ça va être en général soutenu. Il faut un instrument... harmonique, comme une guitare ou un piano qui peut jouer des accords avec plusieurs notes en même temps. Et puis souvent une basse qui appuie, qui est la structure, qui est aussi rythmique d'ailleurs, mais qui donne la base des accords. Et puis donc l'instrument qui improvise à ce moment-là, ça peut être la voix bien sûr, et souvent tous les morceaux traditionnels ou les standards de jazz, à l'origine c'est des chansons, donc c'est toujours la voix, même dans la musique classique indienne, les compositions, ça s'inspire toujours du vocal au départ. Et donc voilà, ça fait trois déjà grands axes entre l'axe mélodique modal, l'axe harmonique, et l'axe rythmique ou polyrythmique. Et donc, suivant qui vient à ce stage et les envies, où je propose aux gens de venir aussi avec un morceau qu'ils aiment bien pour partir de quelque chose qui leur plaît, et ben, en fonction de ça, et ben, on ira explorer sur l'ensemble du stage, de toute façon, l'ensemble de ces trois axes. Et on commencera par ce qui se présente, ce qui est le plus, ce qui répond aux besoins immédiats, je dirais, des gens qui sont là et qui ont envie de jouer ensemble.
Ces stages sont donc adressés à des musiciens expérimentés, un peu quand même.
Je dirais vraiment avec les bases, c'est-à-dire des musiciens qui, ou même peut-être qui ne se qualifient pas de musiciens, ça peut être des musiciens amateurs, mais qui ont quand même, par exemple, si c'est un instrument, je ne sais pas, une flûte ou un saxo, une trompette, qui savent sortir les notes, qui connaissent un petit peu l'instrument, parce que si on ne peut pas tout, on ne peut pas apprendre à courir si on ne sait pas marcher. Donc si on est en train de découvrir le son de l'instrument et comment produire le son, on n'est pas prêt pour improviser, c'est clair. Mais expérimenter avec un minimum de connaissances de leur instrument, je dirais, mais pas forcément de connaissances musicales, et en tout cas pas forcément de connaissances musicales théoriques, puisque c'est plutôt basé sur l'expérimentation, et plus la musique indienne et la musique africaine. D'ailleurs, on apprend par imitation, on écoute et on reproduit, et on s'initie en écoutant, en se lançant peu à peu. Ça passe pas par l'intellect spécialement.
Ce sont des instruments acoustiques, hein, la plupart.
Oui, de préférence. Après tout, y a pas. Moi, chez moi, j'ai un clavier. Un clavier électronique, j'avoue que j'ai un faible pour... D'ailleurs, je suis plus à l'aise sur un clavier ou un piano, mais c'est difficile à transporter. Finalement, je me suis un peu mis à la guitare à cause de ça, parce que c'est transportable. Et puis, de toute façon, d'avoir des doigts qui courent sur une corde, c'est une approche de la musique différente et complémentaire de la flûte, par exemple, qui est mon instrument principal. Et la voix, c'est évidemment le plus léger à transporter, mais... c'est là où on a le moins de repères. Et d'ailleurs, c'est un très bon exercice d'improviser en même temps, par exemple, sur un piano et à la voix, parce que ça connecte justement le clavier sur lequel on a des repères visuels, et puis la voix, ou sur une guitare, pareil. Enfin, ce qui est aussi le plus facile et le plus courant sur une guitare, c'est de s'accompagner en jouant des accords et en chantant dessus, ce que font tous les chanteurs. Une liberté que n'a pas la flûte, par exemple, vu que je suis surtout flûtiste aussi. Mais bon, de toute façon, je trouve que c'est de toute façon intéressant d'approcher la musique par différents aspects, parce que ça ouvre l'esprit, et puis ça renouvelle la créativité aussi. Mais évidemment, c'est rare d'avoir des musiciens qui sont au top sur plein d'instruments. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même assez rare.
On peut peut-être rappeler aux auditeurs aussi cette différence entre la musique indienne et la musique dite occidentale, dans ces gammes d'ailleurs, dans une octave, il y a une différence déjà.
Oui, alors évidemment, mais là je pense pas qu'on rentre dans ces détails-là, sauf si c'est vraiment quelqu'un qui a une attirance. Enfin, si parmi les participants, il y a des gens qui ont des instruments aussi qui le permettent, parce que effectivement. On ne peut pas, par exemple, bien que l'harmonium, qui est un petit orgue avec un clavier, ait été introduit en Inde et utilisé très couramment, mais dans la musique indienne, il y a la position des tons et de demi-tons est plus fine que dans la musique occidentale, Et encore, on parle de... Enfin, Bach a écrit le clavecin bien tempéré, etc. Il y a une époque aussi où les tonalités n'étaient pas superposables et transposables comme ça si facilement. Évidemment, avec les instruments à cordes, par exemple, la position du doigt à l'écoute de l'oreille peut se caler exactement sur le son d'une manière très fine. Alors que quand c'est un clavier, il n'y a pas le choix. C'est... blanc ou noir, enfin je veux dire, c'est do dièse, ré dièse, mais il n'y a pas entre les deux, alors que dans les ragas indiens, en particulier suivant l'heure de la journée, le shruti n'est pas le même, et on peut avoir deux ragas qui utilisent les mêmes notes, mais qui n'ont pas la même... qui sont très différents en fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes shruti, et puis souvent les mouvements et les notes les plus importantes ne sont pas les mêmes non plus, donc... Voilà, mais ça, c'est, disons, des détails. A priori, les participants d'un stage comme ça, qui s'adresse un peu au tout venant et pas spécialement à des musiciens pointus, on ne va pas forcément aller dans ces détails-là, quoi.
Cette rencontre entre musiciens se déroule comment pour ces trois journées, d'ailleurs, sur ces trois journées, comment se déroulent justement ces rencontres ?
Eh bien, sur le plan pratique, donc c'est un lieu magnifique et assez paradisiaque dans la nature en cette saison. Par contre, en plein hiver, ça ne serait pas le cas parce que l'eau est dehors et c'est un petit peu... c'est une ancienne ferme, qui était aussi un moulin à eau, mais qui est restée à peu près dans l'état où elle était il y a 50 ou même peut-être 100 ans. Il y a différents espaces à l'extérieur et à l'intérieur où on peut travailler, à l'ombre quand il fait chaud. Et il y a de quoi, sur le plan pratique, je le propose en autogestion, c'est-à-dire chacun amène sa nourriture pour la journée. Là, du coup, ça devient assez léger, ou les trois jours, ou les deux jours, puisque c'est possible de le faire par option. Et puis, on partage, ce qui est a priori le plus sympathique, ou si quelqu'un veut manger de son côté, etc. Et puis, pour dormir, il y a plein d'espaces pour mettre des tentes, pour dormir à la belle étoile, ou même pour s'abriter s'il pleut. Je ne vais pas rentrer dans l'emploi du temps détaillé, ça va être... ça ne s'adresse pas à un...
Mais il y a une organisation qui prévaut quand même départ.
C'est un lieu vraiment très tranquille, complètement immergé dans la nature et qui est très propice à l'inspiration. Et c'est sûr que ça s'adresse, c'est un petit peu roots, quoi. C'est pas le confort moquette, c'est au niveau des sanitaires, c'est un peu primitif, comme l'avait qualifié le maire de Lèche en Diois. D'ailleurs, un jour ou l'autre, il va falloir arranger un petit peu ça, mais... ça marche comme ça. Et j'ai rencontré une habitante du lieu qui avait vécu 6 mois quand elle était enfant, et qui m'a dit qu'à l'époque, il y avait un tas de fumier. Mais je crois que c'était un peu partout dans toutes les fermes. Mais depuis, ça a quand même un petit peu évolué. Donc ça va, c'est un confort rustique, disons. Mais c'est largement compensé par la paix. On peut le voir plutôt comme un endroit immergé dans la nature, avec quand même quelques facilités. Il y a une cuisinière dehors, il y a des couverts, il y a même une table qu'on peut mettre. Tout dépendra du nombre de gens qui sont là et de ce qu'ils souhaitent, quoi.
Alors, dans votre programme, vous amenez une approche à partir de l'écoute du cœur, de la respiration et de la marche. Donc, comment vous conciliez ça au sein de ce stage d'improvisation ?
Pour se relier au rythme, puisque la première expérience du rythme qu'on a tous eu et qu'on a toujours d'une certaine manière, par exemple, on est spontanément, on se cale plus facilement sur des tempos autour de 120 qui correspondent, je ne sais plus, c'est 60 ou 120, le battement du cœur en moyenne, quoi. La première approche du rythme qu'on a, avant même d'être né, c'est le cœur de la mère, et puis notre propre cœur, évidemment, et la marche, puisque, à moins que la mère soit notre mère et soit tout le temps couchée quand on est dans le ventre de notre mère, quand elle marche, c'est déjà un rythme, quoi. Et donc, c'est la manière la plus naturelle et organique voilà, en se mettant, en mettant la main sur le cœur ou en prenant son pouls et en sentant ce rythme qui est là, de toute façon, qui accompagne notre vie et notre existence, et ben, en le ressentant, puis après, éventuellement, en le claquant des doigts ou en le matérialisant, et puis, et pourquoi pas, en marchant, justement, dans ce rythme-là, où ensuite, on peut travailler séparément, par exemple... Ça, c'est un exercice très facile et amusant et intéressant. Chacun marche à son rythme, spontanément, comme ça. Et puis, tout à coup, on décide qu'on va suivre une personne et tout le monde se synchronise sur son rythme. Et ben, y a déjà un début de synchronisation. Parce que, en fait, c'est ça qui permet de jouer ensemble. C'est de créer des passerelles, de créer, finalement... De créer un langage commun, un langage musical qui soit rythmique, qui soit modal, c'est-à-dire en définissant un certain nombre de notes qui peuvent surgir et puis qu'on garde une fois qu'elles sont sorties. Et au niveau harmonique, pareil, en jouant sur un accord, sur une base harmonique. Même quand on joue tout seul, qu'on va improviser, j'y pensais à ça ce matin en me disant qu'est-ce que j'allais raconter en fait. Je ne suis pas inquiet, je vois que c'est plutôt le problème, c'est plutôt d'être concis que d'être en panne d'inspiration. Mais improviser finalement, ça commence par se mettre des contraintes choisies. Et la beauté, c'est d'en sortir et d'y revenir. Parce que si on se contente de bavarder, c'est un peu comme si on parle autour d'un sujet. Imaginons qu'on parle à bâton rompu en allant partout. C'est reposant, mais c'est un peu fatigant à la longue, spécialement pour les auditeurs, parce que ça manque de, c'est pas centré quoi. Et donc la beauté, c'est de créer ou de respecter un cadre qu'on choisit ou qu'on apprend ou qu'on se... et de s'en libérer. Par exemple, dans le jazz, ben, voilà, il y a une grille, il y a un thème, et puis on s'envole très très loin parfois. Plus on a des grandes ailes, plus on peut s'envoler loin, et on y revient en deux temps trois mouvements. Et c'est cette beauté qui nous révèle la liberté en fait. Mais cette liberté n'existe que s'il y a la structure, si on sent qu'il y a une structure à laquelle on peut revenir et qui est maîtrisée. Autrement... cette liberté n'a pas la même valeur, quoi, parce qu'elle n'est pas maîtrisée, quoi. Et même dans des, par exemple, des structures très très simples, comme des gospels ou des comptines ou des chansons de variété, et ben il y a l'alternance couplet-refrain, et c'est toujours le contraste entre quelque chose qui reste et quelque chose qui change, qui permet d'apprécier le changement, quoi. Parce que si ça change tout le temps, on ne peut rien apprécier. Le changement n'a plus de valeur, quoi. Alors que si le changement, il y a quelque chose qui reste constant, qui permet d'apprécier le changement, là, ça prend toute sa... C'est le contraste, en fait, qui est signifiant, enfin, qui est nourrissant, qui est intéressant.
Vous situez ce lieu de stage dans un vallon sauvage, à quelques kilomètres de Beaumont-Diois. Pour vous, c'est aussi un gain de vous retrouver vraiment en pleine nature, peut-être pour être encore plus en osmose avec la musique.
Ah oui, moi j'avoue que ce lieu, je l'adore, je le connais depuis avant d'être né, puisque j'y suis venu dans le ventre de ma mère et je le savoure, surtout en cette saison, parce que c'est sûr que c'est assez isolé quand même, et il y a 2,5 km de piste, donc à la fois ça filtre un petit peu les curieux qui viennent voir ce qui s'y passe, et bon, elle n'est pas trop mauvaise quand même, c'est tout à fait carrossable, mais ça assure, on entend un tout petit peu la route de Lèche qui est au-dessus, et c'est sur la commune de Lèche, mais je préfère parler de Beaumont, parce que si on commence à s'embarquer sur la route de Lèche, après pour te faire demi-tour, c'est compliqué, et en fait, c'est symétrique par rapport à Beaumont-Diois, c'est de l'autre côté de la nationale, enfin, ce qui n'est même pas vraiment une nationale, je crois que c'est la D... Oui, c'est une départementale, mais qui est quand même... Il y a pas mal de circulation, d'ailleurs, il y a des camions souvent qui passent, et puis il y a la voie de chemin de fer qui est là aussi, donc En fait, c'est de l'autre côté de Beaumont, mais quand on vient de Luc, ou de Die, par exemple, il faut passer par Luc, et après, il y a le Claps, et après, on voit Beaumont-Diois sur la droite, qu'il ne faut pas prendre, et juste après, il y a une petite anse qui permet de tourner à gauche, de traverser, il y a un passage à niveau, mais c'est assez rare qu'il soit baissé, mais il y a quand même quelques trains par jour. Et là, donc, c'est indiqué Lèche, mais on fait 50 mètres, et sur la droite, il y a une petite pancarte, couleur safran, avec marqué Chemin de Michan, c'est le nom de ce chemin. Et donc, Shangri-La, c'est le nom que mes parents ont donné à ce lieu. C'est tout au bout du chemin, donc on peut guère se tromper. Le chemin, il sinue un petit peu. Il y a deux autres maisons vers le milieu du chemin, sur la gauche. Mais quand on ne peut pas aller plus loin, ben, c'est qu'on est arrivé et la maison est à 50 mètres au-dessus, au fond du vallon.
Est-ce qu'il y a un nombre limité pour venir s'inscrire ?
Je pense que jusqu'à une douzaine de personnes, ça reste confortable et possible.
Vous êtes seul, vous, à justement animer ce stage, ou alors vous êtes secondé aussi par d'autres musiciens ?
Là, je pense que je serai seul. C'est sûr que dans l'idée, ça pourrait être aussi avec... j'ai invité, et j'invite toujours d'ailleurs, des musiciens qui seraient eux déjà confirmés en quelque sorte... qui auraient envie de participer, et là, gratuitement, parce qu'en quelque sorte, leur présence élèverait aussi le... Enfin, parce que c'est comme ça que l'idée de ce stage est née, à une fête à l'arbre en spirale, enfin une fête qui avait suivi un concert, et il y avait les musiciens du concert qui... On a fait une jam, enfin, c'est-à-dire une improvisation autour du feu après, et il y avait les deux musiciens qui avaient joué, qui sont de très bons musiciens, et moi-même qui jouaient ensemble, plus un groupe de personnes qui jouaient comme ça, un petit peu en amateur. Et le fait qu'il y ait déjà ce trio qui donnait une cohésion et une qualité musicale, et ben du coup, ça créait naturellement un espace, surtout avec l'écoute nécessaire, parce que l'écoute, ça reste quand même le mot-clé, quoi. Parce que même des très bons musiciens qui jouent, c'est comme quand on parle. Si on ne s'écoute pas, comment on peut dialoguer, quoi. On voit très, très souvent dans certaines émissions de radio et tout ça, les gens qui parlent en même temps, ou ça arrive parfois dans la vie avec certaines personnes, mais il n'y a pas de communication, parce qu'on parle en même temps, on ne peut pas s'entendre, quoi.
Pour les contacts, pour les inscriptions ou des renseignements, il y a un numéro de téléphone. Est-ce que c'est possible de l'indiquer ?
Bien sûr, donc c'est mon numéro, le 06 99 10 34 20.
Et puis, il y a aussi un numéro sur WhatsApp.
Oui, pour ceux qui préféreraient, parce que des fois, on n'a pas de réseau téléphonique et on a du réseau Internet ou de la Wi-Fi. Donc là, c'est un numéro indien. Donc du coup, il faut... il faut le mettre avec le code. Donc c'est plus ou 00, mais plus 91. Vous l'avez sous les yeux, non ? Oui, merci. Je le connais, mais voilà. Plus 91 784 99 13 601.
J'indiquerai ces numéros sur la page de l'émission, sur le site de Air d'Ivoire. Vous-même êtes musicien, vous en pratiquez depuis des années, des décennies même.
Ouais,
vous avez parcouru aussi certaines parties du monde pour vous enrichir.
Ben oui, j'ai passé beaucoup de temps en Inde en particulier et je continue à y passer beaucoup de temps. Je me sens vraiment chez moi là-bas. Et là-bas, je rencontre aussi beaucoup de musiciens. Et puis j'ai joué, avant d'aller en Inde, j'habitais dans le Gard à Uzès et j'avais dans un coin qui était dans la nature aussi, et j'avais des amis il y avait un sculpteur sur bois, enfin il était charpentier au départ, puis il est devenu sculpteur aussi, mais qui était né à Conakry et qui avait, ils avaient appris, ils avaient un groupe, qu'ils avaient, comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom, un nom assez marrant, Dr Spiegel, voilà, un truc comme ça, c'était le nom d'une marque de soupe ou de truc qui avait rien à voir, mais, et ils avaient, lui il était né là-bas, donc il avait été déjà pas mal imprégné, et Alain Maillan il s'appelait, et leur groupe avait passé, je crois qu'il y a les ballets côté bas qui étaient restés pendant un an, comme on appelle ça, le nom m'échappe, mais comme des musiciens qui restent sur un lieu pour préparer quelque chose.
Résidence,
voilà, tout à fait, à Uzès. Et donc des musiciens et danseurs africains de, je ne sais pas de quel pays, mais du... de Guinée, sans doute, qui étaient voilà, bah, les Koteba, qui étaient très pointus, évidemment. Et ils avaient appris et peaufiné, donc ils connaissaient tous les rythmes traditionnels. Et moi, je les avais rejoints au départ pour jouer de la flûte avec eux. Et puis, en fait, ça m'avait beaucoup intéressé, comme moi, j'avais joué de la batterie il y a longtemps. Je m'étais mis en particulier au Doum Doum, où il y a un peu d'indépendance, parce qu'on peut avoir la cloche à gauche, et puis avec la baguette à droite, ou inverse si on est gaucher ou droitier. Mais en tout cas, voilà, c'était...
Cet attrait pour l'Inde, pour sa musique, mais aussi pour le quotidien, est-ce que pour vous, vous êtes toujours autant subjugué par cet univers ?
Ben, je vois, enfin, il y a des gens qui n'ont pas été en Inde et qui parfois idéalisent l'Inde, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de vibration spirituelle très forte là-bas, mais il y a un côté d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, mais les pays ont aussi un signe astrologique, et je crois que l'Inde est Capricorne, c'est-à-dire un signe de terre, et ils ont un côté aussi très matérialiste, et aussi il y a il y a une beaucoup plus grande disparité de niveau de vie, donc il y a des gens beaucoup plus pauvres et beaucoup plus riches, même s'il y a quand même, c'est rare que les gens meurent de faim, mais bon, il y a un écart beaucoup plus grand qu'ici. Et ils ont d'ailleurs une classe moyenne qui se développe, alors qu'en Occident et aux États-Unis, je crois que le fossé se creuse, la classe moyenne disparaît, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches, enfin bref. Mais donc, en Inde... Je sais pas, il y a une autre... C'est tellement différent que j'aimerais pas être né en Inde en tant qu'Indien, parce que c'est une société aussi qui est très rigide et avec des tas de croyances et tout ça. Mais quand on est occidental là-bas, eh ben, on a une liberté incroyable, si on respecte quand même, évidemment, un minimum leur tradition. Mais leur manière de penser est beaucoup plus souple et différente de la nôtre, et enfin en tout cas moi je m'y sens extrêmement bien. Et puis il y a des traditions comme la tradition musicale par exemple qui sont enracinées dans une connaissance millénaire qui est vraiment il y a quelque, comme par exemple même l'alphabet Devanagari, enfin dans lequel est écrit en tout cas l'hindi et les langues du nord de l'Inde, et ben on considère que la vibration des mots correspond à la réalité de ce qu'ils décrivent, quoi, comme je crois que l'hébreu est aussi comme ça. Donc il y a quelque chose d'enraciné dans une réalité profonde, et du coup il y a une souplesse, puis il y a de la place pour... je me souviens, j'avais rencontré il y a longtemps à Jodhpur, je crois, une Française qui avait passé quelques années dans la rue en France, et ça n'avait pas du tout été marrant, et elle avait réussi à en sortir avec l'aide d'amis proches. Et elle me disait qu'en Inde, ça la frappait de voir qu'il y a des gens qui vivent dans la rue en Inde, mais ils ont leur place, ils ne sont pas rejetés, ils ne sont pas... tout est, pour le meilleur et pour le pire, tout est... par exemple, on ne cache pas la mort, on ne cache pas la maladie, tout est ouvert, quoi. Rien n'est caché, beaucoup moins caché. Même la corruption, il y a des trucs insupportables, mais ce n'est pas caché, alors que chez nous, tout est... les gens meurent dans les hôpitaux, les vieux, on les met dans des maisons de retraite, et la corruption, on n'en parle pas, ou juste... enfin, ça change en ce moment, évidemment, mais... Donc, voilà.
Et qu'est-ce qui vous manque ? C'est une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. En étant en Inde, qu'est-ce qui vous manque parfois de l'Occident ?
Eh bien, par exemple, là, j'ai passé... J'étais sous la grosse chaleur dans l'endroit le plus chaud de l'Inde, à la période la plus chaude. D'ailleurs, un ami m'a dit hier que d'ici quelques années, peut-être que les gens allaient devoir migrer parce que ça serait plus vivable, parce que ça allait dépasser les 50 degrés. Je ne sais pas si ça sera une telle échéance, mais je rêvais de mon vallon du Diwa et de l'eau qui coule. Mais c'est vrai que, bon, ce n'est pas seulement la France, c'est cet endroit-là où j'ai grandi, avec qui j'ai des racines dans la nature. Mais je dirais qu'il y a quand même... c'est le contraste encore qui a sa valeur. Je crois que je n'apprécierais pas l'Inde de la même manière si j'étais né là-bas. Et je trouve qu'il y a des... Alors là, c'est encore... Là, c'est un peu mystique, mais je me souviens d'avoir lu il y a longtemps un livre, c'est vraiment très ésotérique, de Alice Bellem, et ça s'appelait Le Dharma des Nations, qui suppose que chaque pays a... un dharma, c'est-à-dire une mission spirituelle spécifique. Et j'avais retenu celui de l'Inde et de la France, celui de l'Inde étant de cacher la lumière et celui de la France de révéler la lumière. Alors, si c'est pas trop prétentieux. Je sens que je me sens bien quelque part dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai un rôle à jouer et puis je suis très bien. Je veux dire, je ne me prends pas pour un missionné du tout, mais je sens bien que je me sens très accueilli chez moi en Inde et que je peux apporter quelque chose du fait d'être français et d'être né dans une autre culture et d'être si proche, en même temps si familier de leur musique et de leur culture à eux.
Vous-même pratiquez de quel instrument ?
Eh bien, la flûte bansuri, c'est-à-dire une flûte traversière en bambou, que j'ai découvert il y a déjà un bon moment, mais j'avais joué de la flûte traversière avant, et puis j'ai joué du piano et de la batterie et tout ça, mais vraiment ça a été un instrument, et puis j'ai appris avec un musicien merveilleux qui joue de cet instrument, qui est encore en vie d'ailleurs, peut-être plus pour très longtemps, je l'ai revu cette année avec un grand plaisir, Hari Prasad Chaurasia, et donc voilà, c'est une flûte sur laquelle moi je joue aussi tout ce que, évidemment, j'ai appris la musique classique indienne, c'est ma formation la plus poussée musicalement, mais je joue dessus aussi bien parfois de la musique classique, c'est pas très courant, mais que je jouais avant parce que je peux lire des partitions, et puis qu'en rectifiant un petit peu, on arrive à s'y retrouver. J'adore jouer du jazz, du reggae, toutes les musiques. Moi, les musiques qui me touchent le plus, c'est celles qui ont à la fois le groove, c'est-à-dire la connexion à la terre rythmique, quoi, et ce qui donne envie de danser. Et puis, le côté mystique et dévotionnel, et par exemple, on trouve ça, pour moi, dans le Qawwali, qui est d'ailleurs proche du Rajasthan, où je m'implante de plus en plus, puisque c'est Nusrat Fateh Ali Khan, tout ça, c'est le Rajasthan. Et aussi bien dans le reggae, aussi, là, d'une manière plus, peut-être simple musicalement, et plus, enfin, très dansante, et voilà, la Jamaïque, tout ça. Mais pareil, ce groove, et puis des paroles, voilà... la dévotion, quoi. C'est-à-dire l'aspiration au divin qui est en nous, quoi. Et une ouverture spirituelle, mais qui n'est pas du blablabla, qui est juste une ouverture du cœur et un bonheur d'être ensemble. Et de, voilà. Et certainement, j'adore la musique brésilienne aussi et tout ça. Et donc, je joue à la flûte. Et puis aussi, j'aime bien chanter et puis même composer des chansons à la guitare. Et puis en ce moment, je suis en train de devenir un peu un réalisateur, puisque je travaille sur un film aussi. Mais bon, c'est un autre sujet.
On peut vous voir prochainement aussi en tant que musicien sur des prestations, des festivals.
Eh ben en fait, je repars dans pas longtemps en Inde. Non, ce serait avec plaisir, mais j'ai même pas vraiment trop cherché. Si jamais ça se produit, je vous le dirai. Mais là, comme je repars dans moins de 3 semaines et puis que j'ai beaucoup de travail à monter le film que je suis en train de faire. Sauf des petites impros comme ça, il n'y a rien de prévu spécialement, quoi.
Shangri-La, c'est le nom du lieu où se fera ce stage du 30, 31 juillet et 1er août. C'est l'ancien moulin de Rodé. Peut-on décrire un petit peu ce lieu, son histoire peut-être aussi ?
Ouais, ben donc c'était un moulin, mais ça fait assez longtemps que... C'était à l'époque où chaque village avait son moulin, si j'ai bien compris.
Un moulin à eau, hein, je précise.
Oui, c'est ça. On a retrouvé la roue en pierre qu'avec des amis paysans, avec un tracteur, on a sorti d'un petit bras de rivière qui était là. Enfin, l'eau passait, traversait sous un petit bâtiment. Et voilà, on a pu... Et il y a un habitant de Lèche qui a connu, je crois, le moulin en activité... et qui m'a un peu... Parce qu'il y a une ruine au-dessus, enfin, qu'il y avait encore une toiture un peu comme mes parents ont acheté, c'est-à-dire il y a maintenant presque 60 ans. Et puis après, des gens ont pris les tuiles et tout ça, et rapidement. Mais ça reste un très beau lieu, la ruine qui est au-dessus d'ailleurs. Et puis, donc, il y a un très long bâtiment qui, selon un maçon qui s'intéresse... enfin, qui a une certaine ouverture, selon lui, il y a des indices qui montrent que ça a été... reconstruit, parce qu'on voit des traces qu'il y a eu une reconstruction à un moment donné sur la base d'un petit monastère, je ne sais plus très bien, qui aurait été une dépendance d'un monastère pas très loin d'ici, j'ai un petit peu oublié les détails. Mais il y a des très belles pierres, il y a une grande bergerie avec une voûte magnifique. Et donc il y a deux, trois bâtiments et il y a de l'eau surtout. On entend l'eau couler tout le temps, ce qui est un luxe extraordinaire et rafraîchissant. Comme ça, il y a pas mal d'arbres, il y a une petite colline. Donc c'est à la fois au fond d'un vallon, comme dans un berceau, mais on a quand même de la vue parce que le chemin qui monte là-bas est un petit peu en pente. Et donc on a une vue vers Beaumont, là. Et pour dire un mot de... Shangri-La, ça se trouve nulle part. Il n'y a même plus de panneau avec marqué Shangri-La juste au-dessus de la maison. Mais c'est un nom qu'avaient donné mes parents, tiré d'un roman. C'est aussi une chaîne d'hôtel. Et c'était, je crois, le nom de la résidence présidentielle américaine à une certaine époque. Je ne sais plus quel président. Enfin, je veux dire, c'est un nom qui est quand même assez courant. Que certains disent c'est un doublet de Shambhala, la station de pilotage mystique de la Terre sur un plan un peu plus subtil, voilà. Mais là, ça veut dire col en tibétain. Et en fait, c'est tiré pour mes parents d'un roman qui est d'ailleurs là-bas, qui est un très beau roman de James Hilton, qui raconte, dans lequel c'est le nom d'une lamasserie dans une espèce de petite vallée perdue dans l'Himalaya, où le temps, c'est pas que le temps n'existe pas, mais le temps s'écoule beaucoup plus doucement que d'habitude. Et je ne vais pas spoiler le roman, mais qui démarre justement avec un concert de Chopin sur un paquebot et Conway qui est amnésique et qui, à la fin du concert, demande au musicien qui vient de jouer s'il peut jouer un morceau. Et il joue un morceau de Chopin, mais que le spécialiste de Chopin qui vient de donner le concert ne connaît pas et est complètement surpris parce qu'il l'a appris dans cet endroit où le temps s'écoulant beaucoup plus doucement, il l'a appris directement d'un élève de Chopin encore vivant. Quoi. Enfin, voilà, c'est mais le roman est très beau. Quoi. Et c'est vrai qu'on a un peu cette sensation d'être hors du temps dans ce lieu, toute proportion gardée. On est quand même à 8 km de Luc. Et voilà, c'est quand même pas au milieu de l'Himalaya. Mais...
Étienne Lotte, je vous remercie d'être venu nous parler donc de la joie de jouer ensemble, un stage d'improvisation musicale qui se déroulera donc les 30 juillet, 31 et 1er août à proximité de Beaumont-Diwa. Tous les renseignements, vous les aurez par le téléphone que je mettrai sur le site. Vous l'avez indiqué dans l'émission. Vous n'avez pas de page Facebook ou un site internet ?
Si, si. Non, j'ai pas. Si, j'ai un blog sur Tumblr qui s'appelle. C'est Suryanil, c'est mon nom d'artiste indien. Suryanil. Ça veut dire le bleu du soleil ou l'eau du soleil, voilà. Et j'ai une page Facebook et une page pro, donc à mon nom français, Étienne Lotte. Lotte, c'est L-A-U-T-H. J'ai deux chaînes YouTube aussi, une qui s'appelle Étienne Lotte et une autre qui s'appelle Suryanil Productions. C'est en anglais, mais c'est pareil. Enfin, la chaîne n'est pas que en anglais, mais voilà. Et j'ai aussi un peu de musique sur SoundCloud. Et oui, juste un petit détail par rapport au stage. Comme on l'a, je veux dire, parfois ça permet de situer mieux. 30, 31 et 1er août, en fait, ça veut dire le week-end prochain, samedi, dimanche et lundi, quoi. Et le stage commence à midi et se termine à 6h le lundi soir pour ceux qui font les 3 jours, quoi.
Étienne Lotte, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci et merci beaucoup pour m'avoir interviewé, malgré la chaleur. Mais enfin là, on a un petit courant d'air qui est plus agréable quand même depuis tout à l'heure.
Au revoir.
Au revoir, bon après-midi.
Da 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 da